Ce petit texte, on peut le découper en deux moments. J'insisterai moins sur le premier. Le premier moment, c'est la prière cri du psalmiste. C'est les versets 2 et la première partie du verset 3. Bon, ici, on a vu que c'est le roi David qui est supposé avoir écrit ce texte. Je dis supposé parce que plus on avance dans la connaissance biblique, plus on sait que certains textes ont été écrits dans le nom de David, ou etc., et non pas par l'auteur. Mais ce qui veut dire que l'inspiration est de David, hein, le grand roi du petit peuple d'Israël. Ici, il crie vers Dieu, c'est un véritable cri. Ce cri, évidemment, comme chaque fois dans les psaumes, c'est lié à une situation de crise, de danger. Vous regarderez, je crois que je les ai notés ici, le psaume 3, par exemple. On vous dit au premier verset, psaume de David, à l'occasion de sa fuite devant Absalom, son fils. Bon, ce n'est pas un moment glorieux, hein, il a un fils qui se retourne contre lui et qui veut prendre le royaume et qui veut le tuer. Vous avez le psaume 18. Psaume 18, du serviteur de l'Éternel David, qui adressa à l'Éternel les paroles de ce cantique, lorsque l'Éternel l'eut délivré de la main de tous ses ennemis et de la main de Saül. Dans certains autres psaumes, vous avez de Saül qui voulait le faire mourir. Donc, David, à certains moments, crie parce que sa vie est en danger. Mais dans d'autres psaumes, nous trouvons un cri qui n'est pas un cri lié à un danger de mort, qui est un cri lié à une crise personnelle, une crise, je dirais, morale ou spirituelle. Et nous pouvons nous identifier très souvent à ces différentes crises, à ces différents cris. Qui de nous, ici, aujourd'hui, pourrait dire qu'il n'a jamais crié à Dieu dans une épreuve ? Ça arrive souvent, même aux gens qui ne sont pas croyants. Très souvent. Vous avez des gens qui ne sont pas du tout pratiquants, puis quand ils ont un souci, ils rentrent dans une église, ils mettent un cierge. Ou alors quand vous leur dites que vous allez prier pour eux, ils sont contents, parce que vous allez faire le boulot. Ô Dieu, écoute mes cris, sois attentif à mes prières. La prière de David, c'est une prière insistante. Il veut que Dieu l'écoute. Notons que, contrairement à ce qu'on dit quelquefois, cette prière prouve que dès l'époque des Juifs et des Hébreux, la notion de Dieu personnel existait. Dieu n'était pas que l'Éternel qui avait sauvé le peuple juif, il était aussi le Dieu personnel de David. Nous avons un Dieu personnel. Notre Dieu n'est pas un être abstrait, ce n'est pas le Dieu des philosophes, ce n'est pas le Dieu de Platon, ce n'est pas un être qui est retiré du monde, ce n'est pas, vous savez, l'être suprême. Non, non, notre Dieu est un Dieu personnel, et David le connaît tellement qu'il crie vers lui, il dit « Mais écoute-moi, sois attentif à mes prières. Non seulement écoute-moi, mais écoute bien ce que je demande. » Pourquoi David fait-il ça ? Ben, il le dit dans la suite du verset. « Du bout de la terre, je crie à toi le cœur abattu. » Nous devons reconnaître que même nous qui sommes chrétiens et qui voulons marcher avec Dieu, nous sommes plus enclins à prier quand les choses vont mal, pas très bien. Quand ça roule, quelquefois on a tendance à oublier. C'est naturel, hein, c'est la faiblesse de la nature humaine, c'est surtout la tentation de la chair dont on a parlé tout à l'heure. Hein. Mais vous vous doutez bien que si nous ne prions que quand nous avons un coup dur, ce n'est pas du tout une bonne base pour la vie chrétienne. C'est une demi-vie chrétienne, c'est comme si vous étiez unijambiste sans béquille. Vous n'avez qu'une jambe. Et vous savez ce qui peut arriver. Donc, ce que ces versets m'inspirent, c'est que nous devons nous efforcer de prier quand aucun nuage n'est dans notre ciel, quand tout va bien. Nous avons rendu gloire à Dieu. Nous pouvons rendre gloire à Dieu quand notre vie fonctionne comme nous le désirons, sans inconvénient. C'est le moment de rendre gloire à Dieu. C'est le moment de faire une provision de grâce auprès de Dieu. Vous connaissez l'histoire de la fable de la fontaine, de la cigale et de la fourmi. La cigale, quand il faisait beau, elle batifolait, elle chantait, etc. La fourmi, elle mettait de la nourriture pour les jours mauvais. Eh bien, nous pouvons être la fourmi spirituelle. Nous pouvons continuellement, quand ça va bien, prier et acquérir la confiance en Dieu, acquérir des bénédictions de grâce. Et puis, ces versets pose une question, à mon avis, plus grave. David demande à Dieu qu'il écoute, mais savons-nous écouter? Savons-nous, nous, être attentifs à ce que dit Dieu? Parce que très souvent, la prière, c'est un monologue qui part d'en bas vers le haut. C'est vrai que le silence devant Dieu, le recueillement, c'est difficile à supporter pour l'homme. Hein. Nous avons tendance à vouloir meubler. C'est très long, ce temps où nous sommes devant Dieu et où nous laissons notre esprit entrer en communion avec Dieu, mais sans l'abreuver de paroles. Si nous faisons ça, Dieu peut nous parler. Dieu parle. Alors bien sûr, Dieu parle de la manière la plus simple, par sa parole. Il a donné la Bible, vous avez là un recueil de paroles de Dieu qui est extraordinaire. Alors, je ne vais pas pousser la superstition jusqu'à ce que faisaient certains chrétiens que je connaissais. Quand ils avaient un problème, ils prenaient la Bible, ils ouvraient au hasard, ils lisaient un verset et ils attendaient que ce soit celui-là qui apporte la solution. Je ne dis pas que ça ne peut pas arriver. Je dis que c'est une méthode un peu aléatoire qui relève un petit peu de la pensée magique. Dieu peut nous parler par la parole, par notre lecture quotidienne, mais aussi par la parole prêchée, par la parole imprimée. Mais il peut aussi parler par la bouche d'un frère ou d'une sœur, quelqu'un qui va nous dire quelque chose et qui va nous apporter la réponse que nous nous posons. Une prière aussi, une prière faite par quelqu'un d'autre peut brutalement nous éclairer et nous toucher. Je suis très prudent avec le mode de communication de Dieu qui sont les rêves et les visions. Là aussi, dans ma jeunesse, dans mon enfance, j'ai côtoyé des gens qui avaient régulièrement des visions de la part de Dieu. Lisez la Bible attentivement, entièrement, et voyez combien d'hommes et de femmes, dans toute la Bible, ont eu des visions. Et vous verrez, vous serez surpris du petit nombre de gens qui ont vraiment eu des visions. Dans le Nouveau Testament, c'est simple, ça se réduit à quatre personnes. Pierre, Jean, Paul et Étienne avant son martyre. C'est pas beaucoup. Donc les visions, attention, hein. Mettons-nous à l'écoute de Dieu sur la prière, sur la prédication, sur la parole. Et puis, une dernière remarque que je me fais à moi-même avant de vous la communiquer. Je crois que c'est pas la peine d'être bavard devant Dieu et de lui raconter par le menu tous nos ennuis. S'il est Dieu, il connaît tout. Il connaît nos ennuis. Donc, ce n'est pas la peine de tartiner, développer, faire le catalogue de nos pathologies, hein, développer nos problèmes familiaux. Non, non. C'est ce qu'il y a à remettre, c'est notre vie avec les problèmes qu'elle a. Dieu le sait, ce n'est pas la peine de lui raconter notre vie. Par contre, être à l'écoute, c'est plus important. Alors, nous arrivons au moment 2 de ce texte. Après que David ait crié et réclamé l'attention de Dieu, il va avoir une phrase très, très importante. C'est la deuxième partie du verset, la partie B, que je vous rappelle. « Conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre. » Je suis allé voir l'hébreu, la traduction littérale. Et la traduction littérale donnerait à peu près ceci, dans l'ordre. Hein. « Sur un roc, il élèvera trop haut pour moi. » Bon, évidemment, il faut le remettre dans l'ordre, hein. Ça veut dire, en gros, il m'élèvera sur un roc trop haut pour moi. Donc, les traductions sont assez bonnes, nous le verrons tout à l'heure. Le verbe peut être traduit au futur ou au présent, puisque en hébreu, ça dépend du contexte. Donc, il y a deux choses dans ce petit morceau de phrase. Il y a un rocher et il y a une hauteur trop grande. Le rocher. Le rocher et sa signification biblique. Nous savons bien qu'une grande partie de ce que nous avons dans la Bible à notre disposition est aujourd'hui à interpréter symboliquement, et non pas au pied de la lettre, sinon on peut aboutir à des choses absolument affreuses. C'est une lecture au pied de la lettre qui amène le terrorisme et les violences et l'intégrisme. Il y a 90 fois le mot « rocher » dans la Bible, et sur ces 90 fois, il y en a 27 dans les psaumes. Donc, vous voyez, presque un tiers des emplois est dans les psaumes. Et si vous êtes un lecteur des psaumes, vous voyez ce que je veux dire. J'ai pris juste un autre exemple, c'est le psaume 71,3, parce qu'il complète bien ce que je veux dire. « Sois pour moi un rocher qui me serve d'asile, où je puisse toujours me retirer. Tu as résolu de me sauver, car tu es mon rocher et ma forteresse. Sois pour moi un rocher qui me serve d'asile, où je puisse toujours me retirer. Tu as résolu de me sauver, car tu es mon rocher et ma forteresse. » Les plus anciens se souviendront peut-être d'un chant qui s'appelait « Il est en roc séculaire » et dont le refrain disait « Mon rocher, ma forteresse, mon asile protecteur, mon recours dans la détresse, c'est Jésus, mon rédempteur. » C'est dans le 397, dans le registre, dans le recueil des ailes de la foi. Pour le chrétien, le rocher, c'est aussi Jésus. Alors que pour David, c'était Dieu, évidemment. Jésus est le rocher qui peut nous protéger. Alors le rocher, c'est quoi, la symbolique du rocher? C'est assez facile. D'abord, le rocher, c'est du solide, du lourd, du massif, de l'incassable. Par contraste, avec le sable, vous avez bien sûr en tête la parabole des hommes qui construisent des maisons, l'un sur le rocher, l'autre sur le sable. Dans Matthieu 7, au verset 24-27. Le rocher, généralement, c'est saillant. Ça domine, ou la terre, ou la mer, on le voit. C'est un point d'appui, c'est un abri. Et depuis ce point, on peut surplomber la situation, avoir une vue dégagée. Le rocher, c'est durable. Aujourd'hui, nous trouvons souvent des pierres dont les géologues nous disent qu'elles ont des dizaines ou des centaines de millions d'années. Quand vous allez en Bretagne, que vous ramassez un caillou dans les chaînes granitiques de Bretagne ou dans certaines régions d'Auvergne ou des Pyrénées, le petit caillou que vous avez, le petit granit qui peut vous servir chez vous pour tenir vos lettres, eh bien, il a 250 ou 300 millions d'années selon la géologie actuelle. Peu importe, il est très vieux. Or, il est très dur. Il est toujours là. Finalement, ce que je viens de vous dire, ça montre que le rocher, tel qu'il est décrit, c'est tout le contraire de ce que nous sommes. Nous, on n'est pas très solide. Hein. On n'est pas très solide, en tout cas, on n'est pas incassable. Ça, je pense que beaucoup d'entre vous ont compris qu'ils n'étaient pas incassables. Il faut peu de choses pour nous briser. Souvent, nous sommes au ras des pâquerettes, à ras de terre, et nous sommes noyés par les épreuves de la vie. On est vraiment submergé. Et puis, est-ce la peine de le dire, mais nous vieillissons. Nous nous altérons. Si on parlait de rocher, on dirait nous nous érodons. Pour finir comment un jour? Vous le savez, tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Géologiquement parlant, idéalement, le rocher géologique finira un jour en poussière, mais dans des temps beaucoup plus grands. Tout le sable que nous avons sur nos plages d'Aquitaine, ce sont des rochers qui ont été pulvérisés. Mais nous, ça va beaucoup plus vite. Donc nous sommes finalement le contraire du rocher. Et quand David crie après le rocher, ce qu'il demande, c'est le remède à toutes ses faiblesses. C'est l'antidote à tout ce qu'il est. Mais il y a un énorme mais. C'est le sens profond de cette expression qu'il emploie. Tu peux envoyer la suite? Encore la suite. Voilà. Je vous ai mis 5 traductions de ce petit bout de verset. Conduis-moi sur le rocher que je ne puisse atteindre. C'est ce qu'on vient de lire. C'est la nouvelle édition de Genève, donc version seconde, révisée. Sur le rocher trop élevé pour moi, tu me conduiras. C'est la traduction œcuménique de la Bible, donc commune aux protestants, aux catholiques, aux orthodoxes. Au rocher qui s'élève loin de moi, conduis-moi. Bible de Jérusalem, donc version catholique de référence. Conduis-moi sur le rocher trop élevé pour moi. C'est la seconde 21, c'est-à-dire la dernière actualisation de la Bible seconde. Et enfin, tu me conduiras sur un rocher qui est trop haut pour moi. C'est la traduction Darby. Bon, vous voyez que, quelle que soit la traduction qu'on prend, L'idée est la même. Il n'y a pas de problème de traduction et on ne peut pas éviter la question que pose ce verset en allant sur une autre traduction. Le rocher, il est trop haut, il est trop loin, il est inaccessible. Bref, c'est difficile pour nous. Alors, on arrive au cœur de cette prédication. Le titre de ma prédication, c'était « Quelle vie chrétienne voulons-nous vivre ?» Et dans ce que je vais dire dans les quelques instants qui restent, il faut être accepté d'être lucide et être prêt à nous remettre en question. Ou alors, si on ne veut pas, ben passons notre chemin et continuons comme avant. La tendance naturelle de l'être humain, c'est la routine, l'habitude, la recherche du confort et du connu. Sur le temps, c'est quelque chose qu'on peut vérifier constamment. Seuls les prophètes, pour la Bible, et les aventuriers, pour le monde, y ont échappé. Mais vous savez qu'ils n'ont pas une excellente réputation. Ils sont perçus comme des trouble-fêtes. Notre vie chrétienne, elle a deux dimensions. Il y en a une qui est collective et il y en a une autre qui est individuelle. La dimension collective, elle est communautaire. C'est la vie en Église. Or, il n'y a rien de plus conservateur que les Églises, et je mets E majuscule, hein, quelle que soit leur dénomination. Toutes les Églises, des plus petites aux plus grandes, ont trouvé, pour justifier la conservation et la pérennité, ils ont trouvé des théologies, ils ont écrit des dogmatiques, ils ont fait tout un tas de travail doctrinal. Et puis il y a toute une histoire de l'Église qui fait que les choses ne bougent pas. Regardez les confessions de foi, regardez les liturgies, regardez les rites, regardez les chants. Tout va dans le sens de la conservation. Et même quand on a des conflits momentanés, je me souviens quand j'étais jeune, il y avait un conflit, mais je pense qu'il est quasi permanent, dans l'église où j'étais, il y avait un conflit entre nous, les jeunes, et les plus anciens à propos de la musique et des chants. Qu'est-ce qu'il fallait chanter? Alors nous, bien sûr, on avait des chants qui étaient modernes à l'époque, qui maintenant sont devenus des classiques. Et on trouvait que leur chant était ringard. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'aujourd'hui, nous, les jeunes d'autrefois, nous sommes les vieux. Et qu'est-ce que nous faisons? Mais nous nous accrochons à nos chants modernes qui sont devenus des classiques. J'en ai choisi un certain nombre ce matin. Et les jeunes qui arrivent, mais nous disent, ça c'est un peu ringard. Alors on n'y échappe pas, hein, dans le groupe de musiciens, on a eu ce genre de discussion. Ce que je veux dire, c'est que petit à petit, l'Église digère et reste dans la tradition et évite les changements brutaux. C'est presque naturel, entre guillemets, de la part de l'Église. Je pose juste la question, ce n'est pas le but de la prédication, est-ce que c'est vraiment sa mission? Ça mériterait d'y réfléchir. Mais en tout cas, nous avons notre vie communautaire là, dans ce cadre. Et dans ce cadre, effectivement, c'est plutôt rassurant parce que les choses ne bougent pas beaucoup. On a des références doctrinales, on a une pratique, on a des cultes, les catholiques ont des messes. Voilà. Et puis, il y a une dimension personnelle, tout à fait individuelle, de la vie chrétienne. Nul ne peut vivre que par sa vie d'église. On ne peut pas vivre une vie chrétienne épanouie si on n'a que la vie d'église. Fût-elle extrêmement bien remplie, hein ? Parce que le message évangélique, la tradition évangélique, est une tradition individuelle. Et le salut est d'abord un salut individuel. La doctrine chrétienne évoque des éléments individuels. Lorsque on évoque la notion de jugement dans la doctrine, c'est un jugement individuel. Le Christ lui-même l'a confirmé. Hein, vous serez jugé de la mesure dont vous aurez jugé. Vous serez pesé du poids que vous aurez utilisé. Le salut, évidemment, les récompenses qui sont évoquées dans les textes bibliques, tout est individuel. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de dimension communautaire. Je veux dire, il y a une dimension individuelle importante. Les dons du Saint-Esprit, sur lesquels Paul insiste beaucoup, ils sont donnés pour l'Église, mais accordés à des individus. Et ces individus ont la responsabilité de les utiliser pour l'Église. Donc on voit qu'il y a une articulation entre la vie individuelle et la vie collective. La prière que nous venons de lire, la prière de David, c'est une prière individuelle. Ce n'est pas une prière qu'il a fait reprendre par les gens dans le tabernacle. Ce n'est pas lors d'une fête, il n'a pas fait reprendre cette prière, c'est sa prière à lui, c'est son cri. Et que dit-il, que constate-t-il dans son propre cri individuel? Eh bien, il fait le constat que le rocher de son salut est trop difficile à atteindre. Il lui est impossible de l'atteindre tout seul. Donc, c'est un constat d'échec individuel d'une certaine façon. Alors, on peut faire une interprétation optimiste. On peut dire que ça s'est réglé, puisque Jésus est venu, il a vécu, il a prêché, il est mort, il est ressuscité pour nous ouvrir le chemin du salut. Et il est effectivement notre rocher, notre forteresse. Bien sûr que c'est vrai, mais je pense que ce n'est pas de ça qu'il est question dans ce passage. Je pense que dans ce passage, il est question d'une façon, d'une conception de la vie chrétienne et non pas du salut. Il est question d'autre chose. Je vais vous faire une traduction analogique de ce petit morceau de verset. Aide-moi à vivre une vie chrétienne qui n'est pas accessible dans la chair. Aide-moi à vivre une vie chrétienne qui n'est pas accessible dans la chair. Et ça change tout notre point de vue. L'affaire n'est pas réglée par la mort et la résurrection de Jésus. Elle nous concerne personnellement, elle dépend de nous. Récemment, je lisais une interview du grand comédien français qui s'appelle Fabrice Luchini, que vous connaissez sans doute parce qu'il a beaucoup tourné. Et il fait beaucoup de spectacles en solo où il dit, où il lit des textes de très grands auteurs, des spectacles très importants. Et le journaliste interviewé sur la façon dont il avait vécu la pandémie, le confinement, etc. Et puis à un moment donné, il a dit évidemment, moi j'en ai profité pour lire, et puis choisir des lectures que je vais faire dans mes spectacles. Et à un moment donné, il a cette phrase extraordinaire. Il dit, j'ai une vie de lecteur au-dessus de mes moyens. Alors, moi je connais un peu la vie de Luchini parce que j'ai lu le bouquin qu'il avait écrit et je connais un peu sa vie. Luchini, à 16 ou 17 ans, il était apprenti coiffeur. Et il était dans un salon de coiffure des Champs-Élysées qui coiffait les stars, les vedettes, etc. Et c'est là qu'il a été repéré et qu'il a commencé à faire le figurant au cinéma et qu'il a bifurqué, il a laissé la coiffure, il est devenu acteur. Donc voilà quelqu'un qui a une éducation tout à fait réduite, qui n'a pas fait de longues études, qui n'a pas été à l'université étudier la littérature. Et voilà quelqu'un qui ose attaquer des grands textes, des très grands textes, il s'attaque à des grands auteurs, et qui en fait une lecture extraordinaire, tout simplement parce qu'il ose dépasser ses compétences initiales. Et c'est ça qui lui permet de faire des spectacles extraordinaires, où les gens se pressent, et c'est un lecteur extraordinaire, et un diseur extraordinaire. Je pense évidemment que vous voyez l'analogie. Avons-nous une vie spirituelle au-dessus de nos moyens ? Il faudrait répondre oui. Au-dessus de nos moyens humains, oui. Oui, nous avons une vie spirituelle au-dessus de nos moyens humains. Et il faut en avoir une. Cependant, si nous sommes sincères, nous savons bien que le plus souvent, notre vie de croyant est très basse. Elle est au ras du sol. Et si elle est au ras du sol, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est alors que les vagues des épreuves peuvent nous submerger. Nous sommes au niveau du sol. Donc c'est très facile. Encore une fois, chacun d'entre nous, vous et moi, nous pouvons nous trouver toutes les excuses possibles, bibliques et évangéliques. Nous n'avons pas le temps, nous n'avons pas les moyens intellectuels, nous ne sommes pas au bon endroit, nous n'avons pas les bons amis autour de nous, etc., etc. C'est la faute de l'Église, c'est la faute du pasteur, c'est la faute de tout ce que vous voulez. Mais qu'en est-il réellement au fond de nous-mêmes ? Quand on arrête d'avancer des prétextes fallacieux. Cette vie au-dessus de nos moyens, nous savons qu'elle existe. Le rocher trop élevé, il est décrit d'abord dans la Bible. D'abord dans la Bible. Alors c'est là qu'il ne faut pas commettre d'erreur. Il y a des histoires extraordinaires dans la Bible, c'est-à-dire qui sortent de l'ordinaire. Il y a des histoires prodigieuses. Aujourd'hui, même en théologie, à un plus haut niveau, on vous dit, attention, ça c'est une légende mésopotamienne qui a été recyclée, ça c'est une légende ceci. C'est-à-dire que l'esprit du monde vise à transformer les récits de la Bible en légendes ou en contes pour enfants. Et évidemment, quelle ressource pour une vie au-dessous de nos moyens si c'est le petit chaperon rouge ? La réalité, nous l'avons lu au début de ce culte, nous avons lu ensemble des versets du chapitre 5 des Galates, sur la chair et l'esprit. C'est là, le cœur du problème, il est là. C'est la chair. Si nous vivons selon la chair, nous avons les goûts et les passions de la chair. Alors la chair, à ce mot, il est vilain chez les chrétiens. Ouh là là. Mais la chair, c'est l'homme naturel, c'est-à-dire c'est nous. L'homme sans Dieu, c'est l'homme charnel. Bon. Et de toute façon, nous restons toujours un homme de chair, parce que nous avons un corps. Donc vivre selon la chair, c'est vivre tout simplement comme tout le monde. Ce qui, hors des milieux chrétiens, n'est pas considéré comme une faute, au contraire. Or, nous savons, parce que nous l'avons lu et nous le lisons, que le chrétien doit vivre et marcher par l'esprit. Et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la chair. Autrement dit, sur le rocher très élevé, il y a des aspirations qui sont le contraire de ce qu'on voudrait faire. Là, ça se corse, Ça veut dire que nous avons en face de nous l'esprit de notre monde. Alors je veux bien dire que l'esprit de notre monde, c'était aussi l'esprit du monde de l'époque des premiers chrétiens de l'Empire romain, c'était l'esprit du monde du Moyen-Âge, c'était l'esprit du monde de la Renaissance, il y a toujours eu un esprit du monde, qui était l'esprit de la chair. Mais là, aujourd'hui, au début du XXIe siècle, l'esprit du monde nous dit des choses qui sont absolument opposées à ce que la parole de Dieu nous dit, à ce que l'esprit nous dit, sur, par exemple, la vie, la mort, sur les hommes et les femmes, sur les enfants, etc. Je ne vais pas détailler, mais vous voyez sans doute ce que je veux dire. Le discours qui nous est dit est clairement un discours qui s'oppose. Et donc, si nous avons cet esprit-là, c'est-à-dire, en fait, si nous marchons selon la chair, c'est impossible, le rocher, il sera toujours trop élevé. Et même, je dirais qu'il s'éloigne, de plus en plus. Donc, il faut dire à Dieu, « Conduis-moi », comme le dit David. Concrètement, c'est ce que nous avons chanté tout à l'heure. « Soumets ma volonté, ma résistance ». Et qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui, disciples de Jésus? Ça veut dire connaître l'Esprit Saint, le recevoir et vivre sous sa conduite. Je ne vais pas développer, mais l'Esprit Saint, c'est un grand angle mort de beaucoup d'églises qui en parlent, mais qui ne poussent pas trop au fond. Connaître l'Esprit Saint, le recevoir et marcher sous sa conduite. Alors ça porte un nom, ce que je suis en train de dire, que je ne vais pas développer non plus, ça s'appelle, selon les traditions, la purification, les juifs utilisent ce terme, la sanctification ou la consécration. Autant de mots qui sont des mots qui engagent beaucoup et qui sont contraires à l'esprit du monde présent. Le monde d'aujourd'hui se résume en gros à un terme qui est le nom d'une philosophie ancienne qui s'appelle l'hédonisme. Alors peut-être que vous ne savez pas ce qu'est l'hédonisme, je vais vous dire ce que c'est. C'est la doctrine qui fait de la recherche du plaisir le fondement de la morale. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui notre société est gouvernée par un principe diffus, que plein de gens ne connaissent pas, qui est « je vis pour me faire plaisir ». Je me fais plaisir. Moi. Et si mon plaisir rentre en contradiction, en conflit avec le plaisir des autres, eh bien là, ça ne va pas. C'est le style de vie qui nous est proposé. Vous pouvez le tourner comme vous voulez, c'est ça. Avec tout ce que ça veut dire. Pas seulement de la consommation à outrance et du gaspillage, mais la conception de ce qu'est une famille, la conception de ce qu'est l'enfant, la conception de ce qu'est une société, la conception de ce qu'est l'école, par exemple. « La marche avec l'esprit est un hédonisme spirituel qui est complètement contraire à l'hédonisme du monde. Oui, dans la vie chrétienne, il y a un hédonisme spirituel qui est la recherche du plaisir spirituel. Mais il faut avoir franchi le cap. Il faut avoir atteint ou approché le rocher pour pouvoir marcher comme ça. Relisez le chapitre 58 du prophète Ésaïe. Le verset 6, c'est un chapitre qui parle du jeûne que pratiquaient les Israéliens et du jeûne que le Seigneur voulait. Et le Seigneur dit à un moment donné, voici le jeûne auquel je prends plaisir. Et ce qu'il énonce derrière, c'est tout le contraire de ce que font les Israélites. Le programme de Dieu est très différent de celui des hommes. Ce qui se passe sur le rocher est complètement différent de ce qui se passe en bas. Alors, on peut tourner le problème dans tous les sens, ou on reste en bas, ou on atteint le rocher. Est-ce qu'il est impossible d'atteindre le sommet du rocher ? Non. Non, sinon ce n'est pas la peine de faire cette prédication. Il est possible d'atteindre le sommet du rocher, et nous avons des témoignages depuis 2000 ans de gens qui ont atteint le sommet du rocher. Nous avons des récits d'hommes spirituels, nous avons des récits de vie. Ça ne veut pas dire quand on est sur le haut du rocher qu'on n'a plus d'épreuves et qu'on n'a plus de soucis et qu'on n'est pas tenté. Non, ça veut dire que ça se règle autrement. Si nous voulons commencer à atteindre ce rocher qui est plus haut, il faut déjà renoncer à tout compromis. Tout compromis, ça veut dire que, grosso modo, quand le monde nous fait accueil, nous fête, nous célèbre, etc., il y a un problème. Il y a un problème parce que nous sommes en train de nous éloigner du rocher. C'est subtil, hein ? C'est subtil, parce que quelquefois, on peut se dire, ah ben, je suis content parce que les gens me reconnaissent, etc., ça marche bien, je peux leur rendre témoignage. Ça aboutit rarement dans ces conditions. Pour conclure, la sainteté, c'est un mot qui fait peur, hein ? C'est un mot qui fait très peur. Dans la tradition protestante, nous savons que la sainteté concerne tous les croyants. Le mot saint n'est pas réservé à une petite élite qui a été canonisée par l'Église. Jésus a dit, soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Matthieu 5, 48. Voilà un verset effrayant. Non. C'est un verset qui n'est effrayant que si nous raisonnons en homme ou en femme charnel. On n'y arrivera jamais. Comment peut-on être parfait ? Tant que nous serons dans ce corps, sans doute que nous ne serons jamais parfaits au sens de Dieu et de Jésus. Mais si nous voulons être parfaits, si nous payons le prix pour être parfaits, pour aller sur le rocher élevé, alors on se met dans une situation qui nous permet de dire que ce verset n'est pas effrayant. Donc ce matin, on a un choix, chacun individuellement. Continuer à vivre au ras du sol, ce qui nous condamne immanquablement, périodiquement, à crier à Dieu comme David. Vous voyez ? À chaque épreuve, à crier, à s'adresser à Dieu, « Seigneur, délivre-moi de moi. » Ou monter, attaquer l'ascension sur ce rocher et découvrir, au fur et à mesure que l'on monte, découvrir que ce qu'il y a en bas, finalement, ce n'est pas aussi effrayant que ça, c'est plus petit, on s'en éloigne. Et ça, ça nous appartient. C'est une décision individuelle que nous devons prendre. Si nous ne l'avons pas déjà prise, il faut la prendre ce matin, parce que c'est dommage de laisser passer une opportunité comme ça. Si nous avons déjà pris cette décision il y a un an, deux ans, dix ans, six ans, vingt ans, peu importe, renforçons cette décision. Renouvelons nos vœux, comme disent les catholiques. Renouvelons nos vœux, parce que nos engagements sont humains et sont fragiles. Voilà ce que je voulais vous dire ce matin. Ce que je voulais vous dire concerne aussi bien l'Église en tant qu'Église que les individus que nous sommes. Nous sommes concernés par ce choix. L'Église doit viser le rocher très élevé et nous devons viser le rocher très élevé également.